Ce soir, c'est le dîner du CRIF, c'est le rendez-vous important des dirigeants de la communauté avec, on va dire, l'élite du pays, qu'elle soit politique ou médiatique ou journalistique. Et nous sommes en ligne avec le président du CRIF, Yonatan Arfi. Bonsoir Yonatan.
Bonsoir.
Alors, la tradition veut que l'on reçoive à ce dîner du CRIF soit le Premier ministre, soit le président de la République. Sarkozy avait changé un peu la tradition, il avait dit « c'est moi qui viendrai en tant que président ». Ce soir, vous recevez le Premier ministre, François Bayrou. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ?
J'ai envie de lui dire ce que les Français juifs ont sur le cœur, c'est-à-dire à la fois leurs peurs, leurs inquiétudes, leurs angoisses, mais aussi leurs espoirs, leurs attentes. Nous vivons un moment qui est historique pour les juifs en France, malheureusement parce que l'antisémitisme est plus haut qu'il n'a jamais été. Mais nous vivons aussi, je l'espère, un moment qui doit être un moment de remobilisation des juifs, remobilisation des pouvoirs publics et je l'espère demain de la société civile dans ce combat qui nous attend contre l'antisémitisme.
Alors au dîner du CRIF, on a des invités. François Bayrou est un invité, mais est-ce qu'on a le droit de lui dire, par exemple, que cette décision de masquer avec des panneaux en contreplaqué des armes israéliennes, parce qu'on trouve que celle-ci est offensive alors que celle-là est défensive avec des calculs qui ne tiennent pas dans un conflit, et surtout pour la méthode, est-ce qu'on a le droit de lui dire que ce n'est pas du niveau d'un chef d'État d'agir comme ça, comme il l'a fait ?
Dans la République, en démocratie, on peut tout dire. Il faut simplement, évidemment, le dire avec courtoisie. Il y a une courtoisie républicaine pour affirmer chaque chose. Je le ferai, évidemment, ce soir, parce que c'est un sujet qui est important pour les Français juifs, parce que au-delà même des Français juifs, beaucoup de Français ont été mal à l'aise avec cette décision. Ça traduit, malheureusement, l'atmosphère d'un moment où Israël est quelque part diabolisé dans le débat public de manière générale, hein, au-delà de la classe politique, surtout dans le débat public. Et il y a besoin de faire entendre que ces gestes-là libèrent quelque chose de mauvais dans la société qui fait malheureusement le jeu, notamment de la France insoumise et des quelques agitateurs qu'on a vus de la cause palestinienne depuis maintenant 2 ans bientôt.
Alors, on est un peu schizophrène avec ce gouvernement et ça serait intéressant, vous qui avez des rencontres régulières avec ses membres, de nous donner un éclairage. Donc, il est peu de dire que le président, le chef de l'État, change d'avis. Mais c'est aussi le cas de son gouvernement. Là, par exemple, cette décision du salon de l'armement, elle vient de Bayrou, elle ne vient pas de Macron. Alors, on va donner 2 exemples, si vous voulez. D'abord, il faut faire une grande coalition internationale contre le Hamas. Et puis après, non, il faut tout faire pour arrêter la guerre. C'est vrai, d'ailleurs, qu'il faut arrêter les guerres. Mais par exemple, prenons le dernier cas. En moins de 10 jours, le dernier cas, c'est la guerre avec l'Iran. Emmanuel Macron dit « on est là, on va venir, on va vous défendre ». Moins d'une semaine plus tard, il dit « il faut tout faire pour arrêter ». Et il change totalement d'avis. Et je crois que ceux qui nous écoutent ont un sentiment plus large par rapport à la Macronie, on va dire. On comprend pas. Est-ce que ce pouvoir est capable des pires choses contre Israël ou au contraire, non, c'est quand même un pouvoir qui est modéré, pondéré, comment vous, est-ce que vous voyez les choses ?
Bien d'abord, nous avons malheureusement l'opportunité à nombreuses reprises d'exprimer des désaccords publiquement avec des décisions du président de la République ou des déclarations ou des positions de notre diplomatie. Nous l'avons fait notamment lorsqu'il y a eu des mots sur l'embargo sur les armes vis-à-vis d'Israël, lorsqu'il y a eu des mots ou des décisions autour de Rosatory, de Ronaval, du Bourget. Parce que ce sont des moments qui ont été marquants. Dire cela n'empêche pas de se souvenir aussi de ce qui a été fait. Je pense en particulier à l'hommage national aux Invalides. Je pense à l'engagement effectivement de l'armée française face aux missiles et aux drones iraniens et un certain nombre également de gestes forts. Il n'empêche qu'effectivement, il y a une incompréhension. Il y a le sentiment que la position française n'est pas équilibrée et que pour contribuer à la paix, comme elle prétend vouloir le faire, et ce que nous souhaitons tous, eh bien, il y a besoin de mieux faire la différence entre une démocratie et une organisation terroriste et que, eh bien, un pays comme la France ne peut se ranger dans sa diplomatie, dans son action internationale, que fermement du côté des démocraties. C'est ça qu'on a envie d'entendre, c'est ça qu'on a eu le sentiment d'entendre un peu moins ces derniers temps et qui sème effectivement de l'incompréhension, parfois effectivement de la distance avec le président de la République. C'est un fait, on y reviendra et on y revient régulièrement. Je ne désespère pas que le dialogue entre la France et Israël puisse retrouver l'intensité et la confiance qu'il a eue par le passé parce que je suis convaincu que la France et Israël ont beaucoup plus en partage que ce qu'ils veulent bien dire ou ce qu'ils veulent bien croire.
Le grand Armand de France a une vision très positive, très optimiste de la situation en France. Et d'ailleurs, pour partie, il s'appuie sur un sondage que vous avez, vous, commandé au CRIF. Et par exemple, il dit, mais regardez les agressions des rabbins, par exemple, que ce soit à Neuilly ou que ce soit à Orléans. On voit que les gens qui sont sur place, les gens qui sont autour, viennent et défendent le rabbin. Et ils disent ça, c'est une société qui n'est pas antisémite. C'est pas... Non seulement ils ne regardent pas ailleurs, mais ils vont chercher l'agresseur. Et les deux fois, et c'est vrai, on a des vidéos. Aujourd'hui, on filme tout. Vous, vous voyez les choses comment? Parce que on peut donner 15 exemples qui vont dans le sens inverse.
Oui, quand on est président du CRIF, on a le droit d'être ni optimiste, ni pessimiste. On doit être pragmatique, et combatif. Pragmatique parce qu'on prend les choses comme elles sont, on prend le réel tel qu'il est, on prend la société française avec ses travers, avec aussi ses ressorts et ses ressources, bien sûr. Et on doit être combatif parce que l'histoire juive nous enseigne que même dans les moments difficiles, on a toujours su trouver un chemin, et ce chemin, il passe par le fait de mobiliser nos énergies, nos valeurs, pour mener ce combat contre des adversaires qui peuvent paraître plus nombreux ou plus puissants, mais dont on sait qu'on viendra à bout. Voilà la réalité de ce qu'est la mission du CRIF. C'est notre ADN parce que nous avons été créés pendant la résistance en 1943, mais c'est aussi, je crois, quelque chose de profondément juif. Ça renvoie peut-être à l'histoire de Pourim, à l'histoire de Hanouka ou à l'histoire d'Israël au moment de la guerre des six jours, où au fond, eh bien, même quand on pense que le chemin est sinueux, eh bien, on l'emprunte avec conviction et on peut gagner des combats qui sont difficiles. C'est l'état d'esprit dans lequel on est. Voilà, donc je ne peux pas vous dire autre chose que ça. La combativité, un judaïsme de combat qui, quelque part, est une forme de retour à une norme historique, malheureusement, dans l'histoire juive.
Mais on a des outils, par exemple, des baromètres. Vous, est-ce que vous avez de plus en plus de mal à rencontrer des dirigeants politiques français? Est-ce que vous avez l'impression que, discrètement, on vous ferme la porte?
Non, il faut être clair là-dessus, et je veux le dire aux auditeurs. Il y a de l'antisémitisme en France, mais la France n'est pas un pays antisémite. Et la différence, elle vient tout simplement de l'engagement des pouvoirs publics. Dans les années 30, en Europe, il y avait de l'antisémitisme d'État. Il y avait des pouvoirs publics qui œuvraient contre les Juifs. Ça n'est pas le cas aujourd'hui en France. Il n'y a pas de politique antisémite menée par l'État. Au contraire, il y a une politique de l'État contre l'antisémitisme. Est-ce qu'elle est efficace? Est-ce qu'elle est suffisamment puissante? C'est un autre débat. Et il faut évidemment pousser pour qu'il y ait plus de moyens, pour qu'il y ait plus d'engagement, bien sûr. Mais on ne peut pas considérer qu'il y ait en France, que la France soit un pays antisémite. Il y a l'antisémitisme, il faut le combattre, il faut trouver des alliés, et il faut faire comprendre surtout aux Français, et ça je crois que beaucoup l'entendent, que l'antisémitisme commence avec les Juifs, mais ne s'arrête jamais aux Juifs.
Mais avant, disons pendant de longues années, on faisait la distinction entre Juifs et Israéliens. Je vais donner un exemple, vous avez été président de l'UJF, lorsque moi j'étais étudiant, c'est il y a très longtemps, c'était impensable qu'un parti politique attaque l'Union des étudiants juifs de France. Je sais pas, on le faisait pas, on attaquait des idées politiques, mais pas les étudiants juifs. Je vous donne un autre exemple, les radios. Nous, pendant des années et des années, on a des partenariats. On a eu des partenariats avec des écoles qui nous envoient des techniciens, des stagiaires, etc. Pour la première fois, j'ai un responsable de l'école en question, que je ne vais pas citer, qui me dit, j'ai fait une demande pour un technicien et j'ai reçu en retour de mail des enseignants qui ont dit, tu n'as pas honte d'envoyer des stagiaires dans une radio génocidaire. Avant, on n'attaquait pas Radio Shalom. Ça ne se faisait pas. C'était pas... Ça se faisait
surtout,
pas.
Surtout quand on connaît l'engagement et l'histoire de Radio Shalom.
Absolument,
pour
la soutenu
paix,
les accords, qui a soutenu les accords d'Oslo, qui a pleuré Yitzhak Rabin. Et voilà ce qui nous arrive. Qu'est-ce que vous en pensez?
Il y a 40 ans, on était traité de sale juif, il y a 20 ans de sale sioniste, et aujourd'hui de génocidaire. C'est ça la réalité de l'antisémitisme. Les mots évoluent, la haine reste. Les victimes sont les mêmes. Et on voit bien que aujourd'hui, l'assignation permanente à la question de Gaza, c'est une manière de stigmatiser les juifs. C'est une manière de les mettre, d'une certaine manière, au banc de la société. Et on a besoin de faire entendre à nos concitoyens de bonne volonté, parce qu'il y a heureusement des gens qui sont lucides, que derrière ces discours prétendument progressistes, prétendument humanistes, il y a très souvent, malheureusement, un dévoiement de la cause palestinienne pour exercer une forme de violence, de stigmatisation vis-à-vis des Juifs. C'est ça la réalité, c'est ça dont chacun, à l'endroit où il est, aujourd'hui souffre. Nous avons la responsabilité de le dire haut et fort. Est-ce que c'est une confusion entre Israéliens et Juifs dans l'esprit de nos ennemis? Peut-être, mais j'ai envie de dire, ça c'est une question qu'il faudra leur poser à eux. Moi, ce que je sais, c'est que c'est de l'antisémitisme et c'est ma responsabilité de le combattre et de le dénoncer.
Pour moi, le pire, c'est Amnesty International. Parce que Parce que c'est incontestable, l'Amnesty International. Je voyais hier un chat sur le journal Le Monde. Et qu'est-ce que vous en pensez? Human Rights Watch et Amnesty International dit ça. Mais Amnesty International, c'est une organisation militante. C'est pas quelque chose qui est sorti du débat politique, par exemple. Ils ont affirmé dans leur rapport qu'Israël détruisait les hôpitaux volontairement, comme ça les Palestiniens ne peuvent pas se soigner, comme ça c'est sûr qu'ils vont mourir.
Quand on arrive à ça, le principal combat qu'on doit mener aujourd'hui, celui vis-à-vis duquel nous avons une responsabilité historique, notre génération, c'est le combat contre l'emploi du mot génocide. Chaque fois qu'on laisse le mot génocide être employé pour qualifier la situation au Proche-Orient, aussi dramatique soit-elle pour les civils par ailleurs, eh bien, chaque fois qu'on laisse cette confusion s'installer, on commet quelque chose qui a des conséquences graves et longues pour les Juifs. Pourquoi ? Parce que l'accusation de génocide, eh bien, elle vient quelque part légitimer les passages à l'acte les plus violents vis-à-vis des Juifs, non pas seulement pour notre génération, mais pour des générations et des générations à venir. C'est cette tâche infamante qu'on est en train de vouloir poser sur le peuple juif. C'est notre responsabilité de mener ce combat. C'est un combat pour la vérité, c'est un combat pour la justice aussi. Mais c'est aussi un combat pour la mémoire, parce que c'est une manière de galvauder la mémoire de la Shoah et de nazifier Israël, c'est-à-dire l'État refuge des rescapés de la Shoah.
Est-ce que d'après vous, c'est rattrapable? Alors je disais ça hier à un intervenant, je disais, on rêve tous. D'ailleurs, on pense tous comme ça. C'est un moyen de vivre. On dit, bon, dans 2-3 mois, il y aura plus la guerre, il y aura moins d'émotions, et on va retrouver notre vie d'avant. Tout ce matraquage va s'arrêter parce que voilà.
Donc il faut sur ce sujet être lucide. D'abord, on ne retrouvera pas la vie d'avant parce que l'antisémitisme a toujours fonctionné par libération successive. Quand un seuil est passé, eh bien, on ne revient jamais en arrière. On n'a pas retrouvé, après l'explosion au début de la seconde intifada, on n'a pas retrouvé les chiffres des années 90 où il y avait quelques dizaines d'actes antisémites enregistrés chaque année seulement. On est toujours resté dans des chiffres en centaines à partir de l'année 2000. Et aujourd'hui, on est en milliers et je prends malheureusement le pari que dans les années à venir, nous ne reviendrons pas aux centaines des années précédentes. C'est ça la réalité du phénomène de l'antisémitisme. Alors, pour autant, est-ce que tout est perdu? Non, on a la responsabilité de mener un combat. L'histoire, elle n'est jamais linéaire, nous le savons, mais on a un devoir de vigilance pour nous-mêmes, un devoir de vigilance pour les générations à venir, pour nos enfants dans la société française, mais un devoir de vigilance aussi pour la société française tout entière, parce que l'antisémitisme est toujours un symptôme et on a besoin, dans ce combat-là, d'avoir des alliés qui le comprennent.
Je voudrais faire une précision concernant Amnesty International pour que les gens comprennent bien. Ça fonctionne sous le modèle d'une association, donc il y a un bureau, donc il y a des gens qui sont élus, et donc c'est des militants. Donc c'est, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que c'est pas une association, une institution comme la Cour des comptes, où il y a d'ailleurs les gens sont élus, mais
bien sûr, c'est des militants. Mais là-dessus, je crois qu'aujourd'hui, Amnesty International a dévoilé à plusieurs reprises ses intentions, son parti pris, sa manière, j'allais dire, tout à fait délirante de ne regarder le conflit qu'à travers un seul prisme et un seul angle. Voilà, je tiens à rappeler toujours que quoi que l'on pense des modalités avec lesquelles Israël mène cette guerre, il peut y avoir du débat, il y a d'ailleurs du débat en Israël, les démocraties sont toujours plus respectables que n'importe quelle régime autoritaire ou n'importe quelle, évidemment, organisation terroriste.
Yonatan Arfi, vous êtes président du CRIF, donc quelque part, on va dire, de la communauté juive. Donc quand on parle à un président juif, on a le droit de faire de l'humour. Donc avant de nous quitter, un peu d'humour juif. Donc avant de nous quitter, je vous demandais, ce soir, vous invitez plein de gens, je veux savoir avec qui, pour vous, c'est vraiment impossible de dîner, pour qui va vous couper le plus l'appétit? Et j'ai Rima Hassan, Aymeric Caron et Jean-Luc Mélenchon pour vous. Lequel c'est vraiment avec qui? Même un bout de pain, ça ne passera pas.
Écoutez, entre Rima Hassan, Aymeric Caron et Jean-Luc Mélenchon, il y en a quand même un qui a l'ascendant sur les deux autres. C'est Jean-Luc Mélenchon qui, quelque part, reste la pierre angulaire de LFI, celui autour duquel est construit la secte, puisqu'on le sait, c'est une vraie meute. Donc je crois que le jour où on aura démélenchonisé la gauche, peut-être une nouvelle ère s'ouvrira. En tout cas, c'est le souhait que nous avons et c'est le combat que nous devons mener.
Allez, et votre meilleur invité avec qui c'est juste un kiff? Alain Chabat? Alain Chabat, c'est
bien. Il y a beaucoup d'invités formidables, mais je vais vous dire, on a ce soir une invitée peut-être la plus importante, qui sera pas deux invités importantes que je veux saluer. La première, c'est Shoshana Aran, qui est une ancienne otage qui est israélienne, qui a été retenue 52 jours dans les tunnels du Hamas, qui sera avec nous ce soir et à qui on rendra évidemment hommage. Et puis la deuxième, c'est Sophia Aram, qui est une combattante, qui est une femme d'exception, dont le courage n'est plus à démontrer et qui, depuis le 7 octobre, a pris beaucoup de risques pour nous, parce qu'elle a compris que quand on parle de l'antisémitisme, on parle de tous les Français. Donc voilà, ce sont deux des personnes avec qui j'aurai ce soir plaisir à dîner.
Ben vous avez en effet deux belles invitées parmi d'autres, mais effectivement, ce sont deux très belles personnes. Yonatan Arfi, le président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, je vous remercie d'avoir été l'invité de Radio Shalom. Bonsoir à vous.
Merci.